Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, vous êtes là, nous aussi, bienvenue, bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et Hélène Bizio et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Kevin Pelot. La gourmandise de ce matin, c'est la flamboyante chorégraphie des corps d'ouvriers dans les usines du Creusot, peinte par l'artiste du 19e siècle Ignace François Bonnommé. Surnommé le forgeron, le peintre figure les artisans de la sidérurgie comme des conquérants, œuvrant héroïquement entre le métal et la fumée. Mais qu'il s'intéresse à la vue intérieure des forges d'Abbinville ou des peignes, le forgeage au marteau-pilon dans les ateliers d'Indre, de l'arbre coudé d'une frégate à hélice de 600 chevaux, Bonnommé rend les clairs obscurs de l'usine, les coulées de fonte et le charbon lyrique. Nous vous avons mis un lien pour voir ses œuvres sur le site de l'émission. Journaliste, notre apothicaire de l'âme entre dans le champ politique par la critique des médias. En 99, le journal des Amiénois passe sous silence la délocalisation d'une usine Yoplait. Notre homme répare l'omission en créant Fakir, le journal fâché avec tout le monde, ou presque. Malgré sa timidité maladive et son extrasensibilité, il devient le porte-parole des petits et des moyens contre les gros. Comprendre les oligarques et non pas ceux qui partagent un peu trop mon faible pour la raclette. Avec courage et constance, cet empêcheur de gouverner en rond s'attaque aussi bien à la finance qu'à l'indifférence en faisant sortir les gens de l'apathie et de la résignation. En 2017, il reçoit le César du meilleur documentaire pour son film Merci Patron et siège à l'Assemblée nationale comme député de la Somme sous la bannière Picardie Debout. Je pense que j'ai un rôle de psychothérapeute politique, affirme celui qui se dit aussi torturé. Député, reporter, détective, essayiste, footballeur, farceur, camarade exalté et obsédé par son prochain, l'homme œuvre sur tous les fronts, se sentant l'héritier d'un devoir de faire. Bonjour François Ruffin.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Première question, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie, sachant que vous dites « quand je ne fais rien, je déprime ».
Je pense que je l'accueille beaucoup mieux maintenant qu'avant. Là, le titre, c'est « Remède à la mélancolie ». Je suis pas sûr d'y chercher des remèdes. J'ai tendance à l'accepter, accepter cet état de fragilité qui me rappelle ce que j'ai été avant. C'est-à-dire que maintenant, c'est facile de se sentir fort. Il y a des gens qui m'aiment bien. T'es entouré de tendresse, d'affection, de tout ça. Donc, c'est plus facile. J'ai été autre chose. J'ai été dans un état, je pense, de grande fragilité où j'avais le sentiment que j'aurais pas ma place dans le monde, quoi. Et les moments de mélancolie, c'est les moments où je me reprends ça. Et je pense que savoir qu'on a continué à avoir ça en soi, ça aide à être dans l'empathie vis-à-vis des gens qui sont pas arrivés sur le devant de la scène, qui ont peut-être pas la vie qu'ils espéraient et ainsi de suite.
En même temps, quand on lit Fakir ou les choses comme ça, on voit qu'il y a le vocabulaire de la mélancolie est assez répandu dans ce journal. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'humour, on a l'impression que vous, François Ruffin, vous prenez cette mélancolie et vous l'avez transmuée plutôt en colère, qui est plutôt positive, puisque la colère, c'est de l'énergie, c'est la pulsion de vie. On est du côté de la vie et pas de la passivité que peut engendrer la mélancolie.
Ouais, je pense que c'est pour ça que je m'appuie dessus. Je la refuse pas. Je m'appuie dessus, j'essaye de la canaliser et puis d'en faire autre chose qui m'amène à les... Moi, je m'en suis sorti par le monde, hein. De ma mélancolie qui peut-être était plus que de la mélancolie et qui a duré pendant des années parce que j'avais l'impression de pas avoir ma place. Et c'est par en allant rencontrer les gens que ça m'a sorti de la mélancolie. Les livres ont aidé, ont été d'un compagnonnage permanent, mais par les idées. Mais au-delà de ça, ça a été la rencontre avec les gens qui m'a sorti du pétrin personnel, quoi.
Là, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place parce qu'en fait, il ne s'agit que de ça dans une existence humaine, trouver sa place.
Bah, je m'épanouis. Oui, j'ai trouvé un lieu d'expression. Exprimer, c'est un verbe que j'aime beaucoup. Exprimer, ça veut dire pousser dehors. Et quand on a l'impression qu'on a plein de choses en soi, de colère, de regret, de remords, de honte, et qu'à un moment, on n'a pas d'endroit pour le canaliser et l'éjecter à l'extérieur, que ça soit dans la presse, mais ça peut être un acteur sur les planches, ça peut être, enfin, il y a des tas de manières d'exprimer et de pousser dehors. Et je pense qu'en fait, mon rôle politique aujourd'hui, il est essentiellement celui-là. Il est d'aider les gens à pousser dehors ce qu'ils ont en eux.
Vous vous intéressez aussi en tant que député et en tant qu'homme au burn-out.
Moi, j'ai frôlé le burn-out à l'Assemblée nationale. Et je dis, c'était pas par la surcharge de travail. Je pense que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui suis habitué à beaucoup travailler. Mais c'était par le côté artificielle du travail et le fait d'être sur 10 trucs en même temps et de jongler et du coup de plus être concentré sur une chose et de le faire bien. Et le fait de faire ma proposition de loi sur le burn-out et de la porter pendant un mois avec des auditions, avec des tas de choses intéressantes, ça m'a sorti du burn-out juste parce que j'ai eu le sentiment de faire quelque chose de bien jusqu'au bout.
D'utile. Eh bien, on va passer en revue quelques hommes qui ont fait des choses utiles et qui ont exprimé justement les démons qu'ils avaient à l'intérieur. Dans quelques instants, François Ruffin, vous allez convoquer entre autres Capra, La Fesse, Brel, Cavana, la littérature, la langue picarde, Maurice Krigel, Val Rimon, des mythes, des farces, Victor Hugo et Mathieu Colligan, juste après un titre de Flavien Berger, Hyper Horloge. Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de François Ruffin et d'un ange de seconde classe.
How did you happen to fall in?
I didn't fall in. I jumped in to save George.
You what? To save me?
Well, I did, didn't I? You didn't go through with it, did you?
Go through with what?
Suicide.
Oh, it's against the law to commit suicide around here.
Yeah, it's against the law where I come from, too.
Well, where do you come from?
Heaven?
Classique de 1946, adapté d'une nouvelle de Philippe Van Doren Stern, La vie est belle de Frank Capra. François Ruffin, je sais que vous avez horreur quand à la radio on passe un long extrait en anglais, comme vous connaissez cette scène par cœur, puisque vous en parlez souvent dans les médias. Je vous laisse la resituer et dire de quoi il s'agit. Ben,
George Bailey est un banquier sympa.
James Stewart, ouais.
Donc un banquier ruiné.
Bien sûr, puisqu'il est sympa, il est pauvre.
Voilà. Et du coup, ça mène à des embrouilles avec sa femme. Enfin, il y a tout qui part en sucette dans sa vie. Il est bourré. Il prend sa voiture, c'est un soir de Noël et il neige, et il rentre dans un arbre, et là, il grimpe sur un pont et il décide de se suicider. Et à ce moment-là, il y a un ange qui apparaît dans son dos, mais c'est un ange de deuxième catégorie. Il n'a pas encore ses ailes, parce qu'il n'a pas encore sauvé personne. Donc, l'ange surveille George Bailey, le banquier. George Bailey plonge. Et qu'est-ce qui se passe? On s'attend à ce que l'ange vienne sauver. George Bailey l'empêche de plonger. Et qu'est-ce qu'il fait? L'ange, à la place, il plonge. Et George Bailey, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Boum! Il saute, il va sauver l'ange. Il ramène l'ange sur le bord, et l'ange, il lui dit, mais t'as vu, je t'ai bien sauvé quand même. Et George, il dit, mais non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment n'importe quoi, t'es complètement malade, c'est moi qui t'ai sauvé. Et là, George, il dit, non, c'est moi qui t'ai sauvé en te laissant me sauver. Et je trouve que ça, c'est une morale qui est vachement forte. Et moi, c'est quelque chose qui est vrai dans le gros de mon parcours, quoi. Par exemple, merci patron. Les clures, ils me disaient merci. Donc, les ouvriers du nord de la France dont je contribue à sauver la maison dans
Donc
merci
c'est la
patron,
famille qu'on voit
ils
dans
me disent merci.
Patron.
Et moi, c'est eux qui m'ont sauvé aussi, parce que j'étais vraiment pas bien quand je fais merci patron, par exemple. D'ailleurs, le temps lors du tournage de la première scène de merci patron ressemble au temps dans La vie est belle de Capra, parce que il neige, c'est des bourrasques dans tous les sens, et moi j'ai le moral complètement dans les chaussettes. Et à ce moment-là, je dois faire un numéro de comique. Bah oui, je fais un film comique parce que ça va pas en fait. Quand les clures me disaient merci, je dis non, c'est vous qui m'avez sauvé. Aussi, c'est dans les deux sens. Mais je crois vraiment qu'on sauve en sauvant les autres. En s'impliquant, en aidant les autres, en fait, c'est soi-même qu'on sauve bien souvent.
Mais François Ruffin, le fait de se noyer comme ça dans les autres pour les aider et se sauver par eux, c'est pas aussi une fuite de soi?
Je suis pas sûr. Moi, je pense que je me suis longtemps regardé le nombril et cherché, introspecté et ceci, cela. À un moment, plongé dans le monde pour venir chercher dans le monde des éclats de soi-même et peut-être se résoudre. Moi, je dis qu'on fait pas de la politique, on fait pas de la presse, on fait pas du cinéma par hasard. C'est parce qu'on a quelque chose à résoudre. Bah, si on le résout par le monde, si on avance avec le monde avec lui, sans nier quel moteur intime peuvent se mêler au moteur public, je vois pas ce que ça a de gênant, quoi.
George Bailey, dans La vie est belle, c'est aussi un héros sacrificiel. Lui, il rêve d'être explorateur, et puis comme il doit reprendre les affaires de son père, et puis aider tous ces gens, finalement, il va jamais réaliser son rêve.
Moi, je pense que, en tout cas, pour ma part, j'ai réalisé le mien. Mais j'aime bien James Stewart, en général. Il y a toute une série dans les films de Capra où c'est l'homme qui affronte l'institution. Il y a un film où il affronte les médias, un film où il affronte le Sénat. Mr. Smith au Sénat, c'est l'un de mes autres films cultes où on le voit complètement en transe devant l'Assemblée, essayer de convaincre par tous les moyens possibles, récitant l'annuaire, se mettant en branle pour affronter la institution. Et en fait, pourquoi? Pour chercher ce qui reste de l'humanité dans le cœur des hommes qu'il a en face de lui. Pour essayer d'éveiller la conscience, éveiller l'humanité qui peut rester. Vous savez, souvent, moi, je me retrouve à l'Assemblée et j'ai ce sentiment-là. C'est que quand on est à la buvette de l'Assemblée, il y a des hommes. Et quand on se retrouve dans l'hémicycle, ce sont des fonctions. Et c'est comme s'il y avait une carapace, un blindage qui se mettait. Et comment on essaye de faire péter la carapace, de faire péter le blindage et d'aller chercher l'humanité dans nos interlocuteurs en face? Et c'est souvent désespérant quand même.
Bah justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous ne désespérez jamais, parce que là, l'humanité, dans La vie est belle, moi je pleure à chaque fois que je le vois, puisqu'il y a cette humanité bouleversante à un moment, cette entraide. D'ailleurs, vous avez aussi cité l'entraide de Pablo Servigne. On va voir si on a le temps d'en dire un petit mot. Elle est quand même assez rare, cette humanité, aujourd'hui.
Mais justement, ce que montre le bouquin de Servigne, c'est l'inverse. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans un océan d'entraide. Mais c'est tellement généralisé que c'est comme la lettre volée d'Edgar Poe qui est sous nos yeux. On n'aperçoit pas toute l'entraide qu'il y a. Votre invitation, elle fait partie de l'entraide. La personne qui est venue essayer de régler l'horloge là, désespérément, dans votre studio, ça relève de l'entraide. On baigne tellement dans un océan d'entraide qu'on ne s'en aperçoit plus. Pourquoi? Parce que l'idéologie dominante, elle vient nous répéter concurrence, concurrence, concurrence. Et il y a autre chose qui peut lier les hommes que la concurrence, la compétitivité, la compétition.
Mais vous pensez pas que ça demande malgré tout un exercice? C'est pas l'élan naturel de l'homme d'être dans l'entraide?
Ben justement, alors c'est l'intérêt du magnifique bouquin de Pablo Servigne, L'entraide.
Et Gauthier Chapelle, L'entraide, l'autre loi de la jungle.
C'est de montrer que ça peut être au contraire un premier réflexe. Le premier réflexe de l'homme peut être d'aller entraider. Et y compris dans les situations les plus catastrophiques, il y a un premier réflexe qui est de l'ordre de l'entraide. Après, ce qui va plus, c'est quand on est dans un groupe et quand on voit qu'il y en a qui trichent, qui joue pas le jeu du bien commun et du bien public, en fait, ça décourage très vite tous les autres autour de continuer à être dans la coopération, de continuer à être dans l'entraide. Donc ça veut dire qu'il faut une régulation, il faut qu'il y ait peut-être des sanctions qui continuent à inciter à l'entraide. Mais je crois qu'il y a les deux en l'homme. Je veux pas dire qu'il y a qu'une seule chose, mais on a tellement une idéologie dominante là qui est exacerbée ces temps-ci, mais qui existe depuis des décennies et peut-être depuis des siècles, qui pose la concurrence, l'homme est un loup pour l'homme, la guerre de tous contre tous, qu'on n'aperçoit plus tout ce qu'il y a d'entraide permanente dans ce qu'on fait dans nos vies.
Ouvrons l'œil.
Oui, la gare de Monaco.
Allô ?
Oui ?
Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est la gare de Monaco ?
Oui.
Oui, je voudrais le bureau des appels en gare.
Des appels en gare, oui, c'est ici.
Ah, très bien. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
La DST, l'appareil, Division de Surveillance du Territoire. Dites-moi, nous avons un agent qui est actuellement dans votre gare.
Oui.
Il faudrait faire un appel en gare pour qu'il puisse rejoindre sa base. Hein.
Alors, c'est à quel nom ?
Alors, ben, c'est un agent, hein. C'est donc confidentiel. Hein.
Oui.
Je vous passe le patron. Hein.
Oui.
Donc, colonel, nous avons la gare.
Oui, mais c'est pour faire un appel.
Très bien, je vous remercie. Allô ?
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur. Voilà, oui. Donc c'est assez urgent. Hein.
Oui.
Alors, c'est un message codé. Alors, c'est message personnel.
Oui, alors, message personnel.
La mienne.
Comment ?
La mienne.
La mienne ?
Oui.
La mienne.
Est plus grosse que la vôtre.
Que la vôtre ? Voilà, c'est tout ?
Voilà, alors je patiente. Je vais attendre le message, hein.
Oui, d'accord. Message personnel. La mienne est plus grosse que la vôtre. La mienne est plus grosse que la vôtre. Voilà.
Alors moi, ça me gêne toujours terriblement pour ceux qui se font avoir. François Ruffin, pour illustrer l'activité qui vous grise, l'un des sketchs que vous affectionnez, c'est l'appel en gare de Monaco, un canular téléphonique de Jean-Yves Lafesse. Vous aimez faire des farces. Et dans Merci Patron, que vous appelez une comédie documentaire, vous en mettez en scène de savoureuse. Bernard Arnault a dû rire comme une banane, j'imagine. Vous bluffez, vous vous déguisez. Vous n'avez jamais peur de vous faire prendre quand vous faites ces farces ou même de vous attirer les foudres de quelqu'un que ça ne ferait absolument pas rire?
Bien sûr que j'ai peur. Je veux dire, de toute façon, on risque toujours le ridicule. Bon, mais moi, c'est quand même l'un des moteurs de ma vie. Vous savez, en France, depuis le XVIIe siècle, il y a une séparation entre la comédie et la tragédie. C'est ta Molière et ta Racine. Et t'as pas le droit de mélanger les deux. Et c'est l'originalité de Shakespeare avec Falstaff d'avoir un personnage qui est farcesque et qui vient amener de la comédie au milieu de la tragédie. Et je trouve que c'est ça qui est beau. J'ai passé des années chez Mermet, moi, à faire des canulars téléphoniques, à imiter Bolkestein, enfin, à faire des tas de trucs marrants. Et je dirais que même aujourd'hui, dans ma démarche politique, je perçois le côté fantaisiste et le côté farce. Aller à la tribune et faire des fausses tirades de Cyrano de Bergerac, ou même le coup du maillot de foot à la tribune de l'Assemblée nationale, les gens, ils y perçoivent du politique. Et il y a du politique dans le fait de vouloir représenter à la tribune les petits clubs. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi un côté, bon, ça s'est jamais fait, on va faire un truc marrant, et puis on va passer un beau moment ensemble. Moi, j'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi, quoi. Et donc, voilà, la fesse, ce que j'écoute en voiture avec mes gamins, les canulars téléphoniques de la fesse, c'est excellent. Et pour moi, il y a une part de fantaisie aussi dans le fait d'amener la fesse sur France Inter, parce qu'il n'y a pas toujours droit.
C'est vrai, mais c'est pas la première fois qu'on le fasse dans l'émission. Vous dites, François Ruffin, je redoute de m'engrisailler à l'Assemblée, de m'entrister, de devenir aussi faussement sérieux que les grandes personnes du Petit Prince. Et j'ai fantaisie de mettre de la fantaisie dans la vie des gens, pas que dans la mienne. En tout cas, vous maîtrisez parfaitement le champ lexical de la mélancolie. Il y a plein d'occurrences dans tout ce que vous écrivez, ça je l'ai déjà dit. Et pour continuer à parler des farces, j'ai vu votre canular le 1er avril 2018 sur BFM TV. Vous étiez reçu par Apolline de Malherbe et vous lui avez affirmé, mais presque au bord des larmes, que vous alliez arrêter votre carrière. Elle a mordu à l'hameçon, enfin d'ailleurs tout le monde a mordu à l'hameçon, et puis finalement vous avez déplié un poisson d'avril.
Fait avec mes enfants, on avait concocté ensemble le poisson.
Mais vous aviez l'air convaincu vous-même de ce que vous racontiez, aviez l'air incroyablement ému.
C'est tout le côté comédien et puis tout ça, évidemment, c'est drôle. Mais moi, c'est vrai, je parlais tout à l'heure de ma jeunesse, je pense que je me suis ennuyé terriblement, et l'un de mes moteurs aujourd'hui, c'est de pas m'ennuyer dans la vie, de pas retomber dans l'ennui de ma jeunesse. Donc voilà, l'un des biais, c'est quand même l'humour et la fantaisie, quoi.
Et encore de la fantaisie qui émaille vos antidotes musicaux, François Ruffin.
Au que ma chemin, j'avouais peur, j'ai tout épeuté, je pinçouais point pouvoir vivre sans tilo aux côtés de lui. Pierre pincé à toute chez nuit, à chmo que tu m'orfouais ami. mais j'ai de géré. Puis j'ai que ma chier à mordrécher, acheteur turvelo, ça te chier de me perdre. J'ai rentré t'étais l'autre 20 mille avec chol tristesse d'un petit yeux. J'ai roué du camp, j'ai chol serrure, sœur j'aurais dû te reprendre chol clé. Si je mouais, j'ai roué que passé que Titus frère venu.
Le tube de Gloria Gaynor, sorti en 1978, I Will Survive, mais en picard par l'amiénois Jean Caron, traduction des paroles par le célèbre picardisan Jean-Marie François. François Ruffin, vous êtes né à Calais, vous avez grandi à Amiens dans la Somme, que vous représentez en tant que député. Est-ce que vous parlez la langue des Hauts-de-France?
Je peux parler un petit peu, mais je sais pas mal truc, quoi.
C'est pas mal déjà. C'est une chanson de bravoure.
Oui, moi je trouve que c'est pareil, il y a un aspect fantaisiste et comique là dans le fait de reprendre I Will Survive, le tube mondial avec le Picard, mais il y a un côté chez le Picard de toute façon qui est immédiatement comique. Moi quand je dis que je suis pour la grande Picardie socialiste, immédiatement ça fait rire, quoi, qu'on va ravaler la Wallonie, ou bien vous voyez le symbole des Fatal Picard, ce que c'était une betterave, le symbole corse, mais à la place c'était une betterave et avec un bandeau et avec marqué en dessous Picardia Independenza. Il y a ce côté ironique permanence. On ne peut pas prendre la Picardie complètement au sérieux. Et donc, il y a un côté ironique qui est source d'humour, quoi.
Et comme promis, l'un des pistolets les plus fidèles de l'émission.
J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi. Allons au ciné. Ma du quartier, ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie. Youpi, youpi, c'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si tristes. Oh oh oh, si triste. Oh oh, ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade.
1964, J'ai fantaisie, Bobby Lapointe, l'une des chansons préférées du chanteur dans son propre répertoire. Puis ça commence évidemment par quelqu'un qui revient d'une usine, François Ruffin.
Ouais, mais qui a goût à la vie et qui se laisse pas enfermer sa vie dans l'usine et qui se demande comment il va mettre de la joie à l'intérieur de tout ça, quoi.
Est-ce que c'est vrai qu'à l'âge de 6-7 ans, vous recopiez les paroles des chansons que vous aimiez?
Ouais, de Jacques Brel notamment.
Jacques Brel. Et est-ce qu'il est vrai aussi que vous avez gagné un radio crochet en interprétant a cappella un titre de Jacques Brel?
Oui, c'était Jeff.
Et vous dites
aussi. Mais je suis l'un des plus piteux chanteurs qui existent. Ma prof de chant, elle me met toujours zéro. Et suite à un rendez-vous parent-prof, elle croyait que je le faisais exprès. Mes parents lui ont dit, mais non, c'est pas pour se moquer de vous. Et du coup, elle me mettait un pour ma bonne volonté.
Ah, oh, c'est sympa. Ça, c'est l'humanité, vous voyez. Alors, dans une interview, vous dites, je pense que dans ma relation aux femmes, à l'amour, à l'empathie, il y a quelque chose qui m'a été livré par Brel. Et moi, j'ai lu une autre interview de Brel qui dit, je n'aime pas beaucoup les femmes, car elles sont un peu l'ennemi. Je ne suis pas misogyne, mais je me méfie d'elles profondément. Je me méfie d'elles parce que j'ai horreur de souffrir.
C'est pas ce qui m'a livré de mieux, sans doute. Non, c'est pas ça que je retiens. Mais c'est vrai que il y a quelque chose en permanence désespéré chez Brel, mais pas seulement dans la relation aux femmes. Il y a une forte présence de la mort, par exemple. Et en même temps, tout ça débouche toujours sur de l'énergie. C'est plein d'énergie. C'est noir. Mais c'est dit avec une telle tonicité, parfois même avec une transe, il y a une transe chez Brel, qui fait que le désespoir est clairement dépassé, parce que l'énonciation de désespoir, faire de la beauté avec du désespoir, c'est le dompter, quoi.
Et vous n'avez pas choisi quelqu'un d'anodin, puisque à 18 ans, il travaillait à l'usine d'emballage de son père, et puis il a toujours été aussi dans une entraide. Quand il a déménagé aux îles Marquises avec son avion, il aidait les habitants en faisant des allers-retours pour aller chercher des médicaments, livrer le courrier une fois par semaine.
Oui, je pense qu'en même temps, c'était quand même un individualiste, Brel, aussi. Et c'est comment on compose, de toute façon, comment on fait pour allier individualisme et société. Il ne faut pas les opposer. Il faut se demander le chemin qui permet de d'interpénétrer les deux. Mais moi, j'aime bien chez Brel le côté réussir sa folie, quoi. Qu'est-ce qu'un fou? C'est un homme qui n'a pas réussi sa folie. Qu'on se demande chacun comment on fait pour réussir notre folie.
Vous avez choisi, François Ruffin, un des titres qui vous donnait envie de retourner au combat. Et pourtant, c'est une chanson d'amoureux éperdu. C'est Mathilde de Brel.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bougna, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque je me lasse. Mon cœur, ne t'emballe pas. C'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières. Ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, mais revenue. Bougna, apporte-nous du vin. Celui des noces et des festins. Mathilde, mère, toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde, mère revenue. Ami, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de François Ruffin qui vient de nous faire entendre Mathilde de Brel. Parlons de littérature. François Ruffin, vous nous avez écrit que vous sortiez de la déprime régulière par elle et vous citez Austin, Aragon, Calais, Cohen, Dostoïevski, Koestler. J'ai lu qu'il y avait aussi Vallès, Tolstoï, Steinbeck. Avez-vous déjà apprécié un écrivain de droite ?
Oui, bah par exemple Solzhenitsyn, qui est plutôt un homme de droite, mais Le Pavillon des cancéreux, c'est une merveille. Mais je veux dire, ça m'arrive très très régulièrement. Je pense qu'en matière de littérature, je commence pas par trancher et me demander à quel camp appartient. Par exemple, je veux dire, il est évident que Céline est l'un des très grands auteurs de ce siècle, et je dirais que j'apprécie ce que j'appelle les fils de Céline, c'est-à-dire ceux qui ont utilisé l'oralité. Ça, il y a eu des précurseurs de Céline, hein, Henri Calais et ainsi de suite, dans toute la tradition du roman populiste, qui ont oralisé l'écrit, mais Céline en est quand même un point marquant, et il y a des fils de Céline, quoi. Donc...
Vous dites dans le petit livret qui accompagne le DVD de Merci Patron, François Ruffin, qui s'appelle « Mon Jérémy, le commissaire Bernard et moi », que vous avez eu beaucoup de tentatives d'écriture de romans que vous qualifiez de lourdes et vides d'imagination. « J'étais un maudit de la fiction, il me fallait le réel pour me féconder, j'en revenais au journalisme malgré moi. » Vous n'essaierez plus la fiction
pure ? Si, j'essaierai toujours. mais honnêtement, j'y arrive pas, quoi. C'est mauvais. Pourtant, et je m'en veux de plus en plus, parce que maintenant, j'ai des centaines d'histoires, j'ai des tranches de vie, j'ai tout ça dans la tronche, mais dès que ça doit devenir de la fiction, c'est mauvais. Et en revanche, je prétends que quand j'en fais de l'écriture du réel, eh ben, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, je sais pas, j'y arrive pas.
Bah là, vous avez choisi pour l'émission un livre qui est l'écriture du réel par Cavanna, puisque c'est un ouvrage de 1981, Bête et méchant. Ça raconte notamment les débuts d'Harakiri après le retour difficile de Cavanna en France, sans argent, sans relation, un peu le cœur brisé.
Ouais, j'étais parti sur un autre extrait, mais c'est pas grave.
Ah non, mais là, je vous raconte un peu l'intrigue du livre.
Oui,
vous avez changé de livre.
Ouais, c'est pas grave.
Mais je vous en prie.
J'avais repris un autre Cavanna.
J'aime bien quand les choses sont inattendues. Non. Je vous en prie, François Ruffin.
Non, j'ai repris un autre Cavanna. C'est le Cavanna sur lequel je suis tombé et qui m'a fait entrer dans l'œuvre de Cavanna et qui, quand c'est à l'adolescence, c'est un moment où on est une pâte à modeler et qui une rencontre littéraire mais qui transforme votre existence. Et c'est les premières lignes de L'œil du lapin, je crois. J'ai eu une enfance merveilleuse. Oui, toutes les enfances le sont, mais celle-là plus que beaucoup. Et je m'en rendais compte. Comment dire, j'étais heureux et je me regardais être heureux. Je me racontais mon bonheur. Je disais à mes copains, les autres petits Rita de ma rue, qu'est-ce qu'on se marre les mecs? Qu'est-ce qu'on a comme peau nous autres? Les copains en étaient bien d'accord. Ils n'y auraient pas pensé tout seuls. Eux se contentaient de vivre et à pleine mâchoire. Mais à partir de là, eux aussi se sont regardés être heureux. Du coup, ils l'étaient encore plus heureux. Je leur faisais le commentaire du match, en somme, se regarder vivre et se la raconter. C'est là tout le vice littéraire. Quand je suis tombé dans l'œuvre de Cavanna, avec l'oralité de son père italien dont il transcrit les propos, enfin, je suis tombé dans l'œuvre de Cavanna et c'est certain que c'est l'une des rencontres qui a bouleversé mon existence.
François Ruffin, là, c'était un extrait qui touchait à l'enfance et je sais qu'il y a un livre qui compte beaucoup pour vous aussi, c'est La belle lurette de Calais, qu'il écrit à 30 ans en 1935. C'est un récit autobiographique qui décrit le Paris ouvrier artisan des années 30-40 et puis il décrit la misère et lui qui est un bébé qui dort dans un tiroir par un couple trop jeune et trop pauvre.
Ouais, mais avec bonheur, hein. C'est un homme qui a une capacité au bonheur quand même, Henri Calais.
Très pessimiste aussi.
Ouais, pessimiste, mais c'est pas un conte incompatible. Peut-être, en tout cas, qui va aller chercher les bonheurs de l'existence, quand même, quoi.
En 1934, la France a l'air dans une situation pré-fasciste. Et les fascistes se manifestent et essaient de prendre le pouvoir. Il y a des forces dans l'armée qui sont candidats, c'est sérieux. Et dans l'ensemble, l'état d'esprit n'est pas meilleur qu'aujourd'hui. En février 34, c'est la première grande manifestation où se rassemblent les forces syndicales et où ils vont dans l'autre sens. Et en 36, c'est le Front populaire. En 2 ans, non seulement vous avez un recul du fascisme, mais d'une certaine manière, en France, le fascisme est battu.
Mai 2006, votre entretien, François Ruffin, avec la grande figure de la résistance, Maurice Krigel-Valrimont, dans Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet sur France Inter, où vous avez été reporter pendant 7 ans. Il meurt quelques mois après l'interview, à l'âge de 92 ans. Qui est-il ?
Donc, c'est l'un des grands dirigeants de la résistance. Mais au-delà de ça, c'est un homme qui a été membre du Parti communiste à la Libération et qui en a été viré. Et je dis toujours que je l'aime pour ces deux raisons-là. Et qui a eu le courage, bien qu'on était en viré du PC, de pas aller au Parti Socialiste ou autre, alors qu'il aurait été accueilli à bras ouverts, mais parce qu'il pensait que c'était pas là le moteur de l'histoire, qu'il y avait quelque chose de plus à gauche nécessaire. Mais au-delà de ça, je veux dire, quand on rencontre Maurice Krigel-Valrimont, quand il nous parle du Front Populaire de 1934, de comment il a fonctionné dans la résistance, de la libération et ainsi de suite, vous recevez un héritage. Mais c'est un héritage qui va au-delà de lui. C'est, vous sentez en lui l'homme des Lumières. Vous sentez en lui la révolution, vous sentez en lui le Front populaire, vous sentez en lui les communards. Et vous, quelque part, sur le fil de sa vie, je le prétends, il m'appelait mon copain, et je sais que sur le fil de sa vie, il passe un relais, comme un témoin, qui dit, bah voilà, c'est une histoire dont j'ai mission de prolonger, que le fil ne soit pas coupé, quoi. Je sais que j'ai ça, comme donc sa fille m'a offert son bureau à son décès. Je suis vachement, j'ai peu de biens dont je sois content, mais je suis vachement fier d'avoir le bureau de Maurice Krigel-Valrimont. Et dans mon parcours, moi je fonctionne avec des repères, on peut dire même parfois des idoles, des modèles. Il y avait Cavanna, je l'ai eu en portrait dans ma chambre, hein, le portrait de Vias de Cavanna. J'ai eu Platini aussi, ah. Jules Vallès, Bourdieu. J'ai eu des portraits comme ça parce que ce sont le matin vous vous réveillez, vous pouvez être découragé et boum, vous dites, il faut que je sois à la hauteur de ça. Et
puis il paraît que vous vous dites, qu'aurait fait Maurice Krigel à chaque fois.
C'est l'un de mes Jimmy Cricket. Il y a des moments où on ne sait pas quels sont les choix qu'on a opérés, comment on s'oriente. Et ben, qu'aurait fait Maurice Krigel-Valrimont à ce moment-là ? Ça ne veut pas dire que c'est un saint homme, mais enfin quand même, il a été honnête vis-à-vis de lui-même et dans son parcours. Voilà. Et donc, c'est quand même un guide. Donc, vous gardez en mémoire, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là ?
Je signale que vous avez publié chez Fakir Édition, Ils nous ont dit, vous êtes fous, entretien avec mon héros, Maurice Krigel-Valrimont. C'est sorti en 2013 et on le trouve toujours. Victor Hugo passera nous saluer dans un instant, juste après J.S. Ondara, Saying Goodbye. Cool. Remède à la mélancolie sur France Inter avec François Ruffin. Il est l'heure de lire quelque chose de beau sur du Schumann.
Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise.
Votre citation consolatoire, François Ruffin, lue par Laure Grand-Besançon, extrait des Misérables de Victor Hugo, paru en 1862. Vous ne vous découragez jamais?
Ben là, c'est comment on fait pour ne pas se décourager? Et là, évidemment, c'est une citation qui nous est apparue dans un moment de grand découragement. C'est il y a une librairie à Amiens qui s'appelle la librairie du Labyrinthe, c'est sur sa carte de vœux en janvier 2016, il me semble, qu'on reçoit ça. Et c'est un moment où le Front National a été au bord des 50% dans la région Hauts-de-France et dans tout le coin chez nous. Et donc où on est relativement désespéré politiquement, quoi. Et en plus, on se regarde le bout de nos chaussures quand on prend le train. C'est les mecs du Front National qui parlent ensemble en disant bah voilà, j'ai été collé des affiches, ça a l'air de bien prendre la campagne et tout ça. Et nous, on regarde le bout de nos chaussures, quoi. Dans le train, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui y croient. Bon. Et donc, dans ce moment de découragement, arrive la citation de Victor Hugo, tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, affronter la puissance injuste, et ainsi de suite. Donc, ça va être l'un de nos moteurs pendant toute la période qui suit. À commencer par un truc qu'on a appelé le réveil des betteraves. Le réveil des betteraves, ça a été une réponse par une manifestation à refuser cette résignation, cet écœurement. Et donc, il y a eu 2-3 000 personnes qui ont défilé à Amiens. J'avais fait une mascotte de betterave. On a une mascotte de betterave. Et j'avais mis en une du journal Fakir, on avait mis à la fois le réveil des betteraves avec une betterave en colère et à côté Victor Hugo et sa citation. Et je pense qu'il est rare que Victor Hugo ait été une telle proximité avec la betterave. Ça, c'est mon côté farcesque et tout ça, mais je pense que dans toute la période qui s'est ouverte pour nous à ce moment-là, ça veut dire Merci Patron, Nuit Debout, et voir l'élection législative, c'est une situation qui a résonné dans nos têtes en se disant, bah voilà, il faut continuer à essayer. Même si on pensait qu'on perdrait, qu'on n'arriverait pas à faire une grosse manif, qu'on n'arriverait pas à ce que Merci Patron prenne dans le pays, qu'on n'arriverait pas à faire un événement public derrière, qu'on n'arriverait pas à gagner l'élection. Moi, je pars toujours perdant.
C'est vrai?
Ouais, je pars toujours perdant. Comme ça, j'ai que des bonnes surprises. Mais c'est vrai qu'au départ, je n'y crois pas. Mais alors, faut pas que je le dise aux gens autour de moi.
Bah non, parce qu'il y a juste 1,5 million de gens qui vont entendre que vous n'y croyez
pas. Mais les gens, ils se découragent. Donc, du coup, il faut que j'apprenne à pas le dire. Mais moi, je n'y crois pas. Mais ça m'empêche pas de le faire. Et puis, en chemin, en fait, si on fait quelque chose et que ça marche pas, ben, en fait, on invente autre chose. Ne pas croire qu'on va gagner, moi, ça me dérange pas à faire le chemin. Il faut tenter. C'est une phrase de Roosevelt qui disait « Il faut essayer d'abord. Le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Donc, essayons. » Moi, ça me décourage pas de me dire que je vais échouer, quoi.
Et il y a Fitzgerald aussi qui dit « Il faudrait savoir que les choses sont désespérées, mais tenter quand même de les changer. »
Ben voilà, c'est le même esprit.
François Ruffin, dans le numéro de février à avril 2018 du journal Fakir, page 3, il y a « Les chiottes d'Hugo ». C'est vous qui écrivez sur ces écrits politiques, notamment sur un discours qu'il n'a pas prononcé, qui s'appelle « Les caves de Lille », à la demande de l'économiste Adolphe Blanqui, qui a publié une enquête sur les classes ouvrières en 1848. Victor Hugo, avec des médecins, se rend à Lille pour voir comment vivent les ouvriers de l'industrie textile. Et il est horrifié puisque les familles sont entassées dans des caves insalubres et il décrit les toilettes. Et il y a quand même cette phrase sublime qui montre qu'on ne peut pas se disputer avec Victor Hugo. Il gagne toujours à la fin. Il finit par les plaies saignantes de ce Christ qu'on appelle le peuple.
Oui, mais c'est magnifique. Hein. Et donc c'est vrai que, évidemment, compte tenu de ma position à l'Assemblée nationale, je me suis tourné vers les écrits politiques de Hugo pour voir ce qu'il y avait. Et j'ai découvert ce texte qui est criant de réalisme. Je pense que moi, ce qui heurte souvent dans mon propos à la tribune, et d'ailleurs, je me fais siffler ou chahuter.
Parce c'est le
que
réel.
Ouais, le réel. C'est l'effraction du réel. Ce qui peut faire mal aujourd'hui, c'est l'effraction du réel.
Dans sa crudité.
C'est dans sa crudité, sa cruauté parfois. C'est ça qui peut heurter. Et c'est pas le lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un décalage. C'est toujours cette notion de farcesque, quoi. Le décalage entre le côté cérémonial. Et là, Hugo qui vient d'écrire les toilettes des gens, quand même très concrètement, il parle de la merde. Il le dit pas comme ça, mais c'est comme ça, c'est bien de ça dont il parle. Et je pense que l'une des causes qui fait qu'il a pas prononcé ce discours, alors il y a peut-être des raisons politiques, mais il y a aussi des raisons qu'il sentait combien ça allait heurter l'auditoire. Combien ce discours-là, par cette effraction massive du réel, allait heurter l'auditoire, quoi.
On peut le retrouver dans ses écrits politiques. Et on arrive au dernier de vos remèdes, François Ruffin. C'est un tableau du peintre et illustrateur Mathieu Cologan, un peu avant la mort accidentelle du contremaître. Comment décririez-vous cette œuvre ?
D'abord, c'est un tableau que j'ai chez moi, en fait.
On vous l'a donné ?
Non, je l'ai acheté. C'est l'un des rares tableaux que j'ai acheté. C'est un copain, Mathieu Cologan, hein, pour rien cacher sur nos affinités. Et donc, c'est un tableau où on voit un ouvrier, manifestement, au premier plan, qui regarde de travers un homme derrière. Compte tenu du titre, qui est un instant avant la mort accidentelle du contremaître, on se dit qu'il va lui arriver un truc de mal au gars derrière, quoi. Et bon, en fait, ce tableau, il a par ailleurs une histoire, c'est que comme il est chez moi et qu'il est quand même assez grand, on mangeait avec mes enfants devant. Ils avaient beaucoup de difficultés à manger quand ils étaient mômes. Vraiment, c'était une corvée. Et tous les jours, je racontais une histoire différente sur comment, qu'est-ce qui est arrivé après cet instant-là. Est-ce que c'est parce que en fait l'ouvrier est couché avec la femme du contremaître, et tous les jours je m'arrêtais et je faisais, et à ce moment-là, et les gamins me demandaient, mais oui, bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Maintenant vous avez les trois bouchées, vous aurez la suite, quoi. Donc voilà.
Vous êtes une Scheherazade moderne, François Ruffin.
Bah, quand il faut.
Alors, vous nous avez dit, donc Mathieu Cologan à découvrir, il est aussi dessinateur de presse et il est l'auteur d'un roman graphique Manif aux éditions Adespot. Et François Ruffin, vous nous avez dit, le jour où j'irai vraiment, vraiment mal, il me restera deux lieux, la bibliothèque municipale d'Amiens et le chemin de halage le long de la Somme.
Oui, je pense que quand je vais à la bibliothèque municipale, il y a un truc de calme, et puis il y a des ressources, il y a des gens qui ont pensé, qui fait que t'as des copains en fait. T'as des copains dans toutes les allées, tu vas dans les C, t'as Cavana, t'as Camus, t'as... Enfin, bon, bah voilà, c'est quand même ce qui fait du bien, c'est les copains. Et je pense que le sport aussi, hier matin, avant d'aller à l'Assemblée, j'ai été faire mon footing, j'ai vu des grues qui décollaient sur la Somme. Tu souffles, parce que tu sais que derrière, il va y avoir du combat, il va falloir calmer ses nerfs, les garder, pas péter un câble dans l'hémicycle, parce que sinon, c'est les autres qui ont gagné. Donc voilà, et le sport, ça a été quand même l'un de mes ressorts, et l'un de mes ressorts de valorisation aussi. C'est comment un homme sur cette terre, on lui donne une valeur.
Alors là, je suis curieuse de deux choses. Quel sport, François Ruffin, faites-vous pour aller combattre après comme un samouraï? Et puis ensuite, la valeur d'un homme?
Mais quel sport? Moi, je pratique le football, mais bon, voilà, j'ai pu faire du tennis, qu'importe, et la course à pied de manière constante. Mais
constante, c'est-à-dire là, pendant qu'on parle, vous êtes en train de faire de la course à pied?
Non, non, pas. Mais je veux dire, toutes les semaines, je cours, et je pense que ça, c'est un truc qui m'équilibre, quoi. De courir et de me décharger et de revenir avec des idées qui sont un peu flottantes. Bon, voilà. Mais après, ça revient à la question du départ. Comment un homme trouve sa place? Qu'est-ce qu'il valorise? Comment on trouve, on accorde une valeur à un homme? Où est-ce qu'il est valorisé? Eh ben, il y a des gamins, tu vois des gamins traîner derrière, sous des abribus. Ben peut-être que c'est de dire, t'es vachement bon en réparation de mobilettes, on va t'aider à réparer des mobilettes. Peut-être que c'est de dire, mais toi t'es bon en dessin, tu vas faire du dessin, on va trouver ça génial, le beau dessin que tu fais. Mais peut-être que c'est la reprise de volée qu'il fait à l'entraînement le vendredi soir qui fait qu'il va se dire, je suis pas une merde. Parce que quand les gens ils commencent à avoir honte d'eux-mêmes, c'est fini. Je sais plus si c'est Lao Tzu, enfin c'est un ou Confucius, ou je sais plus trop, mais c'est connaître sa honte, soutenir sa gloire. Oui, on a tous des choses dont on peut être honteux en soi, mais il faut soutenir la part lumineuse qu'on a en nous, et il faut valoriser chez les autres la part lumineuse pour qu'ils s'accrochent à ça et qu'ils soient pas dans le retournement du stigmate et en disant, puisqu'on dit que je suis une merde, je vais me transformer en merde, je vais rien faire de ma vie, ainsi de suite. Comment produire le déclic chez les autres, comment allumer quelque chose chez des mômes qui sont en état de résignation, quoi.
Mais donc tout cela, ça tourne autour de la reconnaissance.
Oui.
Puisque tous les êtres humains aspirent à ça, ouais. À cette reconnaissance, même infime.
Tout à fait. Oui, je pense que oui, c'est la question de la valeur, c'est la valeur que on accorde à l'autre, c'est comment on est reconnu dans un univers social, quoi.
Et ça, on peut pas se la donner à soi quand on n'arrive pas à la trouver chez les autres.
Je crois que c'est compliqué quand même.
Mais c'est ça
que
le problème.
Il y a une part, on peut être convaincu qu'on a un talent en soi. Maintenant, d'ailleurs, il y a toute une littérature de ça. Moi, j'étais fan de la littérature des losers. Tu vois, je cite Yves Gibeau, mais on peut citer Bukowski. Il y en a plein. En fait, ils font du beau à partir de tout ce qu'ils ont de plus honteux en eux, de leur talent qu'on écrase, quoi.
Baudelaire, l'alchimie, vous êtes bien dans Remède à la mélancolie. Merci beaucoup, François Ruffin, d'être venu dans cette émission.
Ben merci à vous de m'avoir invité, surtout.
Vos dernières parutions, Un député et son collab chez Big Pharma avec Cyril Pocréo aux éditions Fakir, aux arènes ce pays que tu ne connais pas et signalons aussi votre film Je veux du soleil, réalisé avec Gilles Perret. On peut également vous suivre sur votre chaîne YouTube. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi rebondissants qu'un arrosoir céleste. Et dans tous les cas, rendez-vous dimanche prochain à 10h pour la dernière de la saison.